Et notre invité ce matin à la Une en Israël est Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël, auteur de nombreux livres sur le sionisme. Le dernier en date s'intitule « Israël et ses paradoxes ». Il est paru en 2023. Il vient d'enseigner 3 mois à Sciences Po Paris, tiens, sur le campus décentralisé de Menton, dans les Alpes-Maritimes. Et c'est un cours dédié à la spécialisation Méditerranée et Moyen-Orient. Son cours portait sur le conflit israélo-palestinien en pleine période de contestation par des étudiants radicaux pro-palestiniens. On lui demande ce matin si enseigner l'histoire d'Israël est toujours possible en Europe et aux États-Unis aujourd'hui. Lise, je vous laisse converser avec lui.
Denis Charbit, bonjour.
Bonjour, bonjour Lise.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, on vient de le dire, vous êtes professeur de sciences politiques et vous venez d'enseigner en France, justement, sur un des campus décentralisés de Sciences Po. Comment ça s'est passé, Denis Charbit, votre cours?
Écoutez, je sais que ça se tranche un petit peu avec l'ambiance assez pessimiste devant les manifestations de radicalité dont on a vu en plus une expression hier à Paris avec la profanation du mur des Justes. Je dois dire que voilà, il faut heureusement, hein, et je ne sais pas pour combien de temps, mais en tout cas, c'est vrai que je peux témoigner pour ma part du fait que quand on est en cours, quand on dispose de 2 fois 12 heures, hein, puisqu'il y a 12 cours et que chaque cours fait 24 heures pour expliquer, alors même quand vous avez dans votre classe des militants de la cause palestinienne et parmi même les plus radicaux, eh bien si vous parvenez, et c'est ce que je crois avoir réussi à faire, en tout cas c'est à mes étudiants de le confirmer, mais si vous parvenez à être d'une part, mais surtout une ambiance où tout le monde peut s'exprimer, où tout peut être dit, mais tout peut être également discuté, alors vous parvenez dans ce cas-là, comme je crois avoir réussi à le faire, à établir un contrat pédagogique qui fait que, eh bien, on va entendre tous les points de vue, et c'est effectivement la méthode que j'ai adoptée. J'ai fait en sorte que chaque fois, sur chaque document diplomatique ou article sur lequel on travaillait, eh bien, on puisse entendre tous les points de vue, non seulement le point de vue palestinien qu'il connaissait bien, non seulement le point de vue européen ou voire international, américain ou russe, qu'il connaissait bien également, mais également et surtout peut-être le point de vue israélien dont il n'avait jamais entendu parler. Et donc c'est quand on adopte la pédagogie adaptée, la pédagogie qui convient, et là en l'occurrence c'était de dire vous allez entendre les points de vue que vous avez déjà connus, vous allez les étudier, mais cela vous les connaissez, mais vous allez entendre aussi un point de vue que vous ignorez totalement. Et c'est vrai que j'ai eu, pour terminer, de répondre à votre question, c'est vrai que j'ai eu droit à des témoignages, soit oraux, soit par écrit, de certains étudiants me disant que, voilà, que d'abord ils n'ont jamais eu peur de poser quelques questions que ce soit, et ça je trouve que c'est extrêmement important, autrement ça ne marche pas, et puis surtout de me dire que voilà, ils sortent avec une vision plus nuancée, plus complexe. Je ne crois pas, je ne prétends pas avoir fait basculer des étudiants pro-palestiniens à devenir des étudiants pro-israéliens, mais au moins ils ont aujourd'hui, grâce à ce cours, et s'ils restent fidèles à cet enseignement que je leur ai dispensé, eh bien une vision encore une fois plus complexe et plus nuancée. Et je dirais que c'était ça ma tâche, non pas de transformer. Je veux dire, je suis pas, je l'ai dit d'ailleurs le premier jour, je ne suis pas l'ambassadeur d'Israël. Je suis israélien, je ne suis pas l'ambassadeur d'Israël, mais en revanche, voilà, j'ai essayé de les exposer à un son de cloche, à une approche, à une diversité. Parce que même en Israël, il n'y a pas une seule voix dominante. De les exposer à cette pluralité de voix. Et voilà, il me semble que voilà, ce message a été entendu. Après, c'est à eux de voir comment ils vont concevoir leur soutien à la cause palestinienne, pour la plupart, avec cette vision comme ça un peu plus complexe que j'ai essayé de leur dispenser.
Justement, Denis Charbit, est-ce que vous avez constaté quel était l'état de leur connaissance, en fait, avant votre cours? Parce qu'on parle beaucoup tout de même de la haine et de la propagande qui est propagée sur les réseaux sociaux. Ils sont arrivés dans votre cours en sachant quoi, en pensant quoi?
Alors voilà, il faut faire la distinction entre les deux, parce que comme ça a été précisé tout à l'heure, ce campus de Sciences Po à Menton eh bien, spécialisés dans les études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient. Donc dire qu'ils sont totalement ignorants, non, ils n'étaient pas totalement ignorants puisque c'est leur spécialité, mais en revanche, donc ils avaient des connaissances bien sûr, mais je dirais qu'ils avaient surtout un biais, on va dire, suspicieux et négatif à l'égard de tout ce qui concerne Israël. Et ça, c'était, je dirais, très clair. Hein. J'ai pu m'en rendre compte à plusieurs reprises dans les discussions que nous avons, mais des discussions, encore une fois, qui étaient libres. Moi, je n'ai jamais, quels que soient les mots grossiers, si j'ose dire, avec lesquels on décrit Israël aujourd'hui, j'ai jamais dit « ça, c'est interdit, ça, on n'a pas le droit ». Encore une fois, j'ai discuté. Alors, oui, il y a de l'ignorance. Hein. Je me souviens notamment d'un cours où c'était une étudiante qui était montée sur l'estrade pour présenter le point de vue israélien sur les négociations de Camp David 2, hein, c'est-à-dire en 2000, après les paramètres Clinton, etc. Et puis à un moment, elle dit, voilà, le gouvernement israélien, ou Barak à l'époque, hein, était disposé, au terme de la négociation, à restituer 97% de la Cisjordanie. Et là, je l'ai arrêté et je me suis tourné vers la classe en disant qu'il savait. Et personne ne le savait. Et donc, vous voyez, c'est donc une connaissance, oui, mais une connaissance très sélective, c'est-à-dire, je voudrais pas non plus exagérer, c'est pas que j'avais 60 spécialistes de la Nakba, mais globalement, ça, ils connaissaient, ça, ils savaient. Qu'est-ce qu'ils savaient des négociations entre Israéliens et Palestiniens, et le point assez audacieux, parce que, je veux dire, avec la vision comme ça, très manichéenne, d'un pouvoir colonial, colonialiste, depuis le début jusqu'à la fin, etc., bah, c'est un peu dit. Vous imaginez bien le choc qu'ils ont ressenti lorsqu'ils ont entendu qu'à un moment, Israël a proposé 97% de la Cisjordanie. Et je leur ai dit, voilà, pour vous, c'est de l'histoire ancienne, qui n'est même pas née quand c'est arrivé. Pourtant, c'était il y a 24 ans aujourd'hui, pour avoir vécu ces événements. Ben oui, nous en étions là à ce moment-là. Est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Malheureusement, non. Je ne crois pas qu'on est dans cette ambiance-là d'efforts de part et d'autre pour parvenir à un accord. Après tout, même en 2000, finalement, cela n'a pas abouti. Mais voilà, donc ils ont une connaissance sélective. Et bien entendu, la part qu'ils ignorent, bah, c'est la part qui montre un Israël bien différent de celle qu'ils ont en tête.
Alors justement, Denis Charbit, vous êtes en Israël depuis près de 50 ans. Vous êtes l'auteur de nombreux livres sur le sionisme. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que cette idéologie du sionisme, elle est mal vue en Occident de la plupart des gens ou simplement d'une minorité assez bruyante?
Écoutez, malheureusement, l'expérience que j'ai, effectivement, assimile le sionisme à un colonialisme pur et simple. Voilà. Il y a une ignorance totale, par exemple, des dimensions même de l'État d'Israël. Enfin, je veux dire, pour eux, c'est une puissance coloniale comme qui a un empire. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est important de rétablir la vérité. Mais c'est vrai. Donc, globalement, l'opinion qu'ils ont du sionisme, c'est là, effectivement, je dirais, pour eux, voilà, l'histoire, je vais vous dire, l'histoire du sionisme, pour eux, et c'est une part de l'histoire d'Israël, hein, on ne peut pas non plus nier, hein, mais pour eux, l'histoire d'Israël et du sionisme se résume à la Nakba en 1948. Donc, vous avez voulu revenir, peut-être pour d'excellentes raisons, mais ça, qu'on le veuille ou non, ça s'est terminé par l'expulsion de 750 000 Palestiniens. Et 20 ans plus tard, vous dites, bon, ben maintenant, on s'est débarrassé des gens, maintenant, on va élargir le territoire et on va finalement occuper les 100% de la Palestine mandataire. Et j'ai eu des étudiants, mais je dirais pas forcément toujours malveillants. Je parle pas des plus radicaux avec lesquels, bon, voilà, le dialogue est, je dirais, quasiment impossible. Mais voilà, des gens me disant, par exemple, on a fait ça notamment le dernier cours, me disant, bon, écoutez, leur demandant, hein, mais qu'est-ce qui motive votre soutien comme ça, spontané, hein, à la cause palestinienne? Et des étudiants me disent, bah, écoutez, voilà, vous avez un État. Très bien, eux n'en ont pas. Bah, je suis bien entendu du côté de celui qui n'en a pas. Voilà. Et là, vous voyez, et tout le problème aujourd'hui pour moi, c'est la gravité de la situation aujourd'hui, c'est qu'avec la polarisation aujourd'hui existante, même une voix comme celle-là, qui est audible. Enfin, ça n'a rien de scandaleux que de dire, écoutez, votre État, vous l'avez, donc vous n'avez pas besoin de mon soutien. En revanche, eux ne l'ont pas, et donc je suis spontanément pour leur côté. Moi, ça ne me paraît pas quelque chose de révolutionnaire. Ça n'exige pas pour eux, enfin pour cet étudiant en tout cas, d'être anti-sioniste. Mais effectivement, cette sorte de spontanéité, de sympathie spontanée pour les coloniser, les oppresser, le monde non occidental, fait que le sionisme va être assimilé à une idéologie d'Européens qui s'ennuyaient et qui un beau jour se sont dit...
Denis Charbit, excusez-moi de vous interrompre, mais cette sympathie de l'opprimé, elle ne va pas pour les otages, de ce que j'entends.
Effectivement, non, mais bien entendu, vous avez tout à fait raison. Pour eux, enfin, pour eux, il faudrait individualiser les choses, mais c'est clair que dans dans l'équilibre, enfin, dans la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui, et d'ailleurs, je dirais que c'était ça, finalement, le plus grave, c'est que cette hostilité ou ce manque d'empathie, c'était dès le lendemain, c'était pas au plus fort des bombardements. En quel cas on peut dire écoutez, j'étais du côté des otages, aujourd'hui je suis voilà. Ce qui est terrible, voilà, et ça je l'aurais dit très souvent, ce qui est terrible, c'est que pour eux et je dirais en général d'ailleurs, il y a une guerre et donc il faut choisir son camp. Voilà. Et quand on dit il faut choisir son camp, ça veut dire qu'on oublie tout le reste. Voilà. Celui qui est pro-israélien, il faut qu'il ne se prononce absolument pas sur ce qui se passe avec le nombre des victimes, les civils, cette politique de la terre brûlée, etc., ce qui se passe en Cisjordanie. Non, terminé. On est du côté d'Israël, du côté des otages. Et inversement, quand on est du côté des Palestiniens, comme vous l'avez très bien dit dans votre question, les otages, ça n'existe plus. C'est un épiphénomène. Voilà. Et ça, je dirais, pour moi, c'est ça le malheur. Parce que qu'Israël et palestiniens soit dans cette confrontation un peu manichéenne, on va dire c'est presque normal. Mais pourquoi en Europe, pourquoi aux États-Unis, on ne serait pas capable d'avoir une vue, d'avoir une sympathie peut-être plus pour l'un que pour l'autre, je peux bien entendre, mais d'avoir cette vision, encore une fois, manichéenne, qui fait qu'à un moment, on va devenir des militants. Je veux dire, moi je le dis très souvent, mais qu'est-ce qui vous empêche d'avoir, de condamner effectivement le fait que depuis... Ils sont habiles, attention, c'est pas des. Ils vous disent on n'a pas dit qu'on était pour le Hamas, on est pour les Palestiniens, ce qui n'est pas la même chose. Voilà, donc travailler cette complexité là, je dirais que c'est ça qui s'est perdu aujourd'hui. C'est là où la situation me paraît assez grave, parce que de part et d'autre, on est hémiplégique, on est paralysé d'un côté. Alors encore une fois, les acteurs du conflit, on peut comprendre qu'ils en soient plus ou moins là. Et encore, je veux dire, on perd pas sa raison parce que on est impliqué directement dans un conflit. Mais c'est vrai que tout le monde est submergé par les émotions et les passions. Et je dirais que c'est là où on en est encore aujourd'hui. Et c'est à ça peut-être qu'il faut peut-être travailler. C'est quand va-t-on rétablir le droit de la raison à réfléchir sur ce qui nous arrive. Écoutez, on a traversé l'épreuve de la Shoah. On est quand même revenu assez vite à la raison, on appelait ça la résilience, on n'a pas été dans une sorte de passion permanente, et c'était la Shoah. On n'en est absolument pas là aujourd'hui. Moi, mon travail, c'est un petit peu d'essayer ça. C'est peut-être pour ça que ça a marché, parce que c'est une voix, je dirais, tellement minoritaire dans le concert de ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'on nous demande ? On nous demande d'être au garde-à-vous pour un côté, au garde-à-vous pour les autres, et de censurer toute forme d'esprit critique. Alors, je comprends les circonstances, la guerre n'est pas terminée. Je suis pas certain qu'on va pouvoir revenir à ce langage-là une fois la guerre terminée, une fois les leçons tirées de ce conflit. Moi, je l'ai dit, je le dirai également à ce micro, s'il y a bien une période où il devrait être compliqué d'être pour les uns ou pour les autres, c'est bien maintenant. Parce que, qu'on le veuille ou non, du côté du gouvernement israélien, on a quand même un gouvernement qui n'inspire pas toujours confiance, et on voit la manière, vous parliez des otages, dont il ne fait pas des otages une priorité. Et du côté palestinien, pas besoin de vous dire, regardez la profanation ici. Alors, j'ai pas dit que tous les pro-palestiniens approuvent et appuient ce qui s'est passé, mais ça fait partie du résultat presque fatal d'identification qui sont permanentes. Alors, Voilà, tout ce que je peux espérer, c'est qu'une fois le conflit arrêté, eh bien, on trouve les forces mentales, morales, pour dire bon, et si on se préoccupait de ce qui se passe en face. Mais attention, une préoccupation réciproque. Je n'ai pas de doute que ça va être une tâche immense. Tout le monde est dans sa bulle victimaire. Tout le monde est dans la souffrance de sa propre de la cause qu'il défend. Mais comment on fait pour dépasser ça? Parce que si on reste là-dedans, eh ben alors c'est jusqu'à la fin des temps un conflit et on aura, dès 7 octobre, suite à quoi Israël réagira d'une manière ou d'une autre. C'est ce cercle vicieux qu'il faudra bien un jour essayer de casser.
Merci beaucoup, Denis Cherbit, professeur de sciences politiques en Israël, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée à vous. À très vite.